Merci d'être venu en si grand nombre. Alors, je vais essayer de répondre pendant cette conférence à la question qu'on me pose tout le temps. Mon père, qu'est-ce que je fais pendant une heure? Et c'est vrai que c'est important de vous aider, hein, à bien vivre ces temps d'adoration. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile, hein. Donc, ma conférence va être assez pratique. Je vais essayer de vous donner des conseils spirituels pour comprendre et bien vivre ces heures d'adoration. Il y en aura huit, s'il y en a qui prennent des notes, comme ça ils peuvent suivre. Huit points, huit attitudes spirituelles pour bien vivre nos heures d'adoration. Mais avant de commencer, une petite histoire. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai rencontré un prêtre qui avait participé à l'organisation des JMJ de Denver, 1993, avec le Saint-Pape Jean-Paul II. Et ce prêtre m'a raconté cette histoire. L'équipe d'organisation a vu que sur le passage de la Papamobile, il y avait un petit oratoire, peut-être près d'une église, d'un hôpital ou d'une école, je ne sais plus. Petit oratoire, avec la présence réelle. Et les membres de l'équipe, connaissant le pape et sa sainteté, sa vie de prière, se sont dit, si le pape voit cet oratoire, il va vouloir s'arrêter et on va être en retard sur le planning, qui est minuté, secondé. Et donc, l'équipe a voulu cacher l'oratoire en faisant venir des arbustes, des toiles, pour pas que le Saint-Père voie l'oratoire. La Papamobile arrive, passe devant l'oratoire et le pape dit stop. Il montre l'endroit de la chapelle et dit qu'est-ce qu'il y a là? Alors le prêtre qui avait fait ça est tout penaud, dit Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement. On avait peur que vous arrêtiez pour prier. Parce qu'il faisait ça souvent, hein? Pendant ses voyages, il voulait aller prier, s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, il adorait Jésus au tabernacle, hein? Et les gens étaient en retard. Et donc le père dit, ben voilà, on avait peur que ça se passe comme ça et on ne pouvait vraiment pas être en retard aujourd'hui. Et le Saint-Père, avec un sourire, a regardé l'équipe des prêtres là, il a dit, ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. Il avait en fait, c'est ça qui est merveilleux derrière cette histoire un peu drôle, perçu Jésus au Saint-Sacrement, comme d'autres mystiques, comme Padre Pio, d'autres. Saint Jean-Paul II de cette catégorie-là. C'est un géant, un grand, grand, grand géant de la sainteté. Il avait perçu tellement, il passait de temps à le prier, à l'adorer dans sa chapelle. Vous savez qu'au Vatican, il passait 2 à 3 heures par jour avec un emploi du temps plus que de ministre, de pape. 2 à 3 heures par jour au tabernacle et parfois avec le Saint-Sacrement exposé. Il avait mis un bureau au fond de sa chapelle privée pour écrire ses encycliques. Ces textes médités en présence de Jésus. Alors le premier point, après cette petite histoire introductive, le premier point, première attitude spirituelle quand on arrive à l'adoration, essayer de se décentrer de soi. Et vous retenez bien le mot premier, le verbe essayer. Parce que dans tout ce que je vais dire, on n'y arrive pas trop en fait. Et ce n'est pas la fin du monde. Hein? Mais on essaye. On essaye de se décentrer de soi parce que la prière d'adoration est une rencontre avec quelqu'un. Hein, Jésus à Sainte Faustine qui se plaint. On me traite comme une chose au Saint-Sacrement, comme un objet. Je suis là en personne. Je suis vivant. J'ai une personne vivante. Et donc, la prière d'adoration, ça va être un apprentissage de sortir de soi, se décentrer de soi. Pourquoi? Parce que depuis le péché originel, quand nous naissons, spontanément, notre tendance première, ce n'est pas de nous tourner vers l'autre et vers les autres, mais de regarder son petit nombril. Toujours un prêtre américain avec qui je vivais, parce que j'ai vécu un peu là-bas, aux États-Unis, à New York, me disait, tu sais, Dieu est Trinité. Alors je dis, oui, ça quand même, je sais. Il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis, bah oui, ça aussi, je sais. Et donc, il y a une trinité dans l'homme. Ah, alors là, je dis ça, je ne savais pas. Tu veux savoir ce que c'est la trinité dans l'homme? Je dis oui. Alors, je vous le fais en anglais, en américain. La trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Eh oui, les conséquences du péché, hein. On est centré sur soi. Le moi, le moi, le moi. Et donc, la prière d'adoration va être un apprentissage pour se décentrer et rencontrer vraiment le Seigneur Jésus. Alors, comment faire? Eh bien, déjà avec notre corps. Le corps participe de la prière. Nous sommes incarnés, hein, corps et âme. Et donc, le corps participe, nous aide à prier. Hein, on n'est pas des anges. Le corps nous aide à prier. Et donc, il faut, eh bien, en arrivant, se prosterner, adorer à genoux, au moins quelques minutes. Sauf si, évidemment, on est excessivement malade et que les jambes ne se plient plus. Hein, mais s'il n'y a pas de problème grave, eh bien, on se met à genoux. L'homme est grand quand il se met à genoux devant son Seigneur. Donc le corps qui nous aide à prier. Et c'est vrai que le corps nous aide à prier. Je m'en rends compte, nous on a des... Comme on passe beaucoup de temps, on a des fauteuils plutôt confortables là où je suis. Et donc je me rends compte que parfois j'ai tendance à m'affaisser un peu sur ce fauteuil. Et donc je me remets parfois quelques minutes à genoux, hein, pour m'aider dans la prière. Alors le corps est important, mais aussi évidemment le cœur. Hein, les deux vont ensemble. Sinon... Il y a un problème, hein, si le corps dit quelque chose mais que le cœur dit autre chose. Et donc le cœur doit aussi se décentrer. Comment? En parlant à Jésus et en faisant des actes de foi, d'espérance et de charité, d'amour. Seigneur Jésus, je crois que tu es présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Je crois que tu es là. Seigneur Jésus, j'espère en toi dans ma vie, que tu prends soin de moi, que tu me guides et que j'arriverai un jour au ciel. Et Seigneur Jésus, je t'aime, je veux t'aimer toujours plus, apprends-moi l'amour, etc. Vous voyez, après, je donne des exemples, hein, vous parlez comme vous voulez, hein, vous ne faites pas de copier-coller avec ce que je viens de dire. Hein, mais des actes de foi en la présence de Jésus au Saint-Sacrement, d'espérance et de charité. Mais en fait, par lequel des trois des actes il faut commencer à votre avis? La fin, la charité, oui, exactement. Saint Pierre Julien Aymar nous aide aussi, hein, je vais m'aider des saints, nos grands frères. Hein, les saints, ce n'est pas des supermen et des superwomen. Hein. Le saint ne tombe pas du ciel comme ça, saint, ouh, je suis saint, moi. Non, le saint est un pauvre comme nous, qui a ouvert son cœur à la grâce et qui a fait le chemin avec ses écueils, ses difficultés. Et il nous aide. Hein, c'est des grands frères, des grandes sœurs qui sont déjà arrivés dans la maison et ils nous aident pour qu'on y arrive aussi. Saint Pierre Julien Aymar, commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Et voilà. Et oui. On commence par soi. Il faut commencer par Jésus. Merci Jésus de ton amour pour moi. Merci de ta grâce. Merci de ta présence. Vous voyez, ce décentrement. Alors je dis bien, on essaye, on n'y arrive pas trop, hein, mais on le sait. Hein, c'est un apprentissage. Ou bien, dit Saint Pierre Julien Aymar, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier. Et oui, de ne pas se regarder, de s'oublier comme Saint Jean-Baptiste pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. Hein, donc, décentrement. On essaye, en tout cas, de se décentrer. Deuxième attitude, la simplicité dans nos rapports avec le Seigneur Jésus qui est là, dans le Saint-Sacrement. Parce que, frères et sœurs, nous sommes très compliqués, surtout en amour. Déjà, dans l'amour humain, on est compliqué, mais avec Dieu, c'est pareil, c'est compliqué. Pourquoi ? Mais on est blessé. Hein, le péché est une blessure profonde dans notre être. On est blessé, on a peur. Rappelez-vous, Adam et Ève, après le péché, ils vont se cacher de Dieu. On a peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir parler comme il faut, de pas, hein ? On n'est pas confiant. Et donc les saints nous invitent à la simplicité dans nos dialogues avec Jésus. Le père François Liberman, qui a fondé les Pères du Saint-Esprit, les Spiritains, il dit « L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur, voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre petit enfant devant son Père, pas davantage. » Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Vous voyez, c'est simple. Pour les saints, c'est simple. Et nous avons tout un chemin de simplification à faire dans notre vie. Parce que Dieu est parfaitement simple en théologie. Hein. Il n'est pas complexe, il n'est pas composé de plusieurs choses. Nous, oui. Et donc la vie spirituelle, c'est une simplification. En fait, plus on est saint, plus on trouve la vie très simple. Mais on complique souvent les choses. Hein. Alors dans la simplicité de nos rapports, on lui parle simplement avec ce qu'on a dans notre cœur, quoi. Hein, comme un ami, très simplement. Et dans cette simplicité, est-ce qu'on peut avoir la simplicité d'utiliser un livre quand nous sommes à l'adoration ? Oui, non ? Oui. C'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis aussi, mais Sainte Thérèse d'Avila, vous connaissez, docteur de l'Église, docteur de la prière. Le Carmel, c'est la vie intérieure, l'oraison, la prière personnelle, intérieure. Et Thérèse d'Avila, donc, nous dit dans sa biographie que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà rentrée au couvent, elle ne pouvait pas faire une heure d'adoration ou d'oraison au tabernacle sans l'aide d'un livre. Alors si elle, pendant 14 ans, après elle n'a plus eu besoin, elle avait gravi des échelons, hein, mais elle a eu besoin de l'aide d'un livre pour soutenir sa méditation, sa prière. Donc si elle l'utilise, grande sainte, nous, pauvres petits pêcheurs de Chalands, eh bien on peut aussi. Mais attention au piège du livre. Le livre doit être une aide, mais il peut très vite devenir un obstacle, une fuite. Je fuis la difficulté de la prière et je me réfugie dans mon livre pour que l'heure passe plus vite. Exemple, j'arrive à l'adoration, je me mets à genoux quelques minutes, je dis bonjour au Seigneur, après je m'assieds, je m'installe. J'ouvre mon livre et je lis pendant 50 minutes ou 55 minutes. Je referme, je dis au revoir au Seigneur et je m'en vais. Problème. Imaginez, vous invitez quelqu'un à dîner, vous montrez la table avec tous les aliments et puis vous allez vous asseoir sur votre canapé et vous finissez votre roman qui vous passionne tant. Et puis à la fin, vous allez les voir en disant « Bon, c'était sympa cette soirée, hein ?» Ils vont dire « Bah, pas trop, hein ?» La nourriture peut-être était bonne, le vin aussi. Mais c'est, voilà, le livre peut devenir un obstacle, voyez, entre le Seigneur Jésus et moi. Donc, attention, on ne lit pas toute l'heure. Hein, moi, je pense 5-10 minutes peut-être au début pour nous aider, et puis peut-être encore 5-10 minutes au cours de l'heure, mais pas plus. D'accord ? Hein, c'est une aide. Alors, quel livre ? Bon, on ne prend pas le journal de l'équipe. Ça peut tenter quelques-uns, ni d'autres livres de revues de ce genre. Hein. À votre avis, quel livre on prend ? L'Écriture sainte, en priorité, évidemment. L'Évangile, les psaumes. Avec ça, mais surtout peut-être encore plus que les psaumes, l'Évangile. Enfin, toute l'Écriture, évidemment, mais particulièrement l'Évangile, qui nous parle de Jésus, de ce qu'a fait Jésus, de ce qu'il a dit, de ses attitudes. Et on est en présence de lui, de Jésus, ressuscité qu'il a devant nous. Alors voyez comme c'est parfaitement adapté. On apprend, on approfondit à connaître Jésus, ses vertus, ce qu'il a fait, ses paroles. Et il est là, et il nous éclaire. Hein, donc la Bible, évidemment, en priorité, l'Évangile. Après, on peut prendre aussi d'autres livres qui parlent des méditations eucharistiques. Hein. Saint-Pierre Julien Aymard a un livre avec quelques méditations. Une vie de saint eucharistique, une vie de Carlo Acutis. J'ai vu qu'il y en avait déjà dans l'oratoire. C'est parfait, voyez. Hein, mais voilà, une aide. Attention au piège. Hein, on ne fuit pas pendant 90% du temps dans notre livre. Troisième point. Ne pas avoir peur de sa pauvreté, de sa nullité. Je ne sais pas prier, je ne sais pas faire. On ne m'a jamais appris, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas religieux, je ne suis pas moine. Je suis un pauvre petit fidèle de Châlons en 2020. Eh bien, vous êtes les bonnes personnes pour aller prier. Parce que Jésus, c'est ce qu'il aime. Il aime ma pauvreté. Moi, je ne l'aime pas trop en général. Je la fuis. Je veux être fort. Le monde dans lequel on vit nous dit qu'il faut être fort, il faut réussir, il faut être bon, il faut être efficace, il faut être performant. Eh bien, avec Jésus, ce n'est pas du tout la même logique. Et heureusement, heureusement. Saint-Pierre-Julien Aymard, toujours lui. Rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou bien même de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur à l'adoration avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce que Jésus préfère à tout. Ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Quelle chance, frères et sœurs, avons-nous d'avoir un tel sauveur. Donc, plus d'excuses. Ah, moi, ce n'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Justement. Pourquoi? Parce que le pauvre, il s'ouvre à Dieu. Le pauvre, il demande de l'aide. Help, Seigneur. Je ne sais pas faire, je ne sais pas prier, je suis un pauvre. Viens en moi. Priez, viens m'apprendre. C'est pour ça que Jésus aime notre pauvreté, parce qu'il peut venir l'habiter de sa puissance et de sa force. Mais c'est dur, hein, même dans la vie spirituelle, c'est dur d'apprendre à être pauvre. Hein, c'est Thérèse de Lisieux qui dit ça. Le véritable pauvre, où le trouver? Celui qui accueille vraiment sa pauvreté et qui ouvre par là même les vannes de la puissance divine. Moi, j'y arrive pas trop encore. Hein. J'essaye, mais j'aime pas trop ma pauvreté. Et les saints l'aiment, ils l'accueillent. Catherine de Bar, elle n'est pas sainte. Moi, je pense qu'elle est au ciel quand même. Elle a fondé une congrégation, je crois, au 17e de religieuses, les bénédictines de l'adoration perpétuelle. Et en religion, elle s'appelle Mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Et elle dit ceci. Soyez, à ses filles, hein, à ses novices et tout ça. Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. Ah, on a un élément de réponse à ma question initiale. Mon père, qu'est-ce que je fais pendant une heure? Eh bien, rien. Nous dit cette sainte personne. Alors qu'on s'entende, c'est pas une invitation à se tourner les pouces, mais c'est une invitation à laisser faire le Seigneur et à entrer dans une démarche de réceptivité première. Notre petit effort à nous, parce qu'effectivement nous avons un petit effort à faire, c'est d'essayer d'être présent à la présence. Si je peux résumer mon enseignement, s'efforcer, faire un effort, un petit effort, voilà, pour essayer de se recueillir, pour être présent à la présence, présent à Jésus qui est présent. Elle continue. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement aux pieds de Jésus. Ah, même les saints ont des distractions. C'est normal, frères et sœurs. On a tous des distractions. Pourquoi ? Parce qu'on est pécheurs et que les puissances de l'âme ne sont pas soumises à l'intelligence, à notre être. L'imagination aurait dû être parfaitement soumise, parfaitement sous contrôle, s'il n'y avait pas eu le péché. Mais maintenant, elle part dans tous les sens, l'imagination. Thérèse d'Avila l'appelait non pas la fée du logis, mais la folle du logis. On ne la maîtrise pas. Elle part. Et on part avec souvent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se rend compte qu'on est parti, vous voyez, on est là, le corps est là, on est à l'adoration, mais en fait, on n'est pas tout à fait là. On est parti, dans nos pensées, dans nos distractions. On s'en rend compte, peut-être au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être au bout de 59 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah pardon Seigneur, oui là j'étais parti. Pardon, je reviens humblement à tes pieds. C'est ce qu'elle dit, on les laisse passer. Hein, on s'en rend compte ? Humblement, humilité, et oui. Mais Jésus sait bien que notre imagination, on ne la maîtrise pas. Il le sait parfaitement. Donc on revient. Pardon Seigneur, je suis revenu. Thérèse d'Avila, une fois dit, pardon Seigneur, pendant cette heure sainte, je suis parti 14 fois. Et Jésus lui répond, oui Thérèse, mais tu es revenu 14 fois. L'imagination révèle aussi notre attachement aux choses, hein, que notre cœur n'est pas complètement à Jésus. C'est là aussi une pauvreté à accueillir. Peut-être lui demander de nous détacher de cette pauvreté. Hein. Quelles sont nos distractions ? Bah, la prochaine réunion de boulot, nos soucis de vie de famille, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Il faut que j'aille chercher un tel à la gare, à l'école, etc. etc. Hein. Moi, j'avoue, personnellement, c'est comment va jouer le PSG ce week-end ? Est-ce que Neymar va marquer ? Est-ce qu'il va faire une passe à Mbappé ? Voilà. Chacun ses attachements. Alors quand je me rends compte, je dis, Seigneur, vraiment, je suis encore attaché à cette idole, détruis-la. Mais ce n'est pas la fin du monde, ces distractions. Hein. On revient humblement aux pieds de Jésus. Alors c'est dur pour nous de ne rien faire, d'apprendre à être passif, parce qu'on est dans un monde du faire. Et oui, le monde dans lequel on vit ne valorise que le faire, l'action. C'est-à-dire pour ça que peu de gens prient vraiment et prennent le temps de s'arrêter et de prier une heure à adorer parce qu'on pense que ça n'a pas, ça compte pas quoi. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Et donc c'est dur pour nous d'apprendre cette passivité, cette apparente inutilité. Or, les saints nous disent qu'en fait, c'est primordial d'apprendre à prier. Pourquoi ? En fait, Saint Jean de la Croix nous dit ceci. Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. Ouh là là, ça fait mal hein, à nos plans pastoraux, à nos fers, à nos réunions qui n'en finissent pas, qu'on multiplie, et on oublie l'essentiel. Est-ce que je suis allé prier devant le Seigneur avant de faire mon activité ? Le plus petit acte de pur amour, qu'est-ce que c'est que ce pur amour dont nous parle Saint Jean de la Croix ? Dans la vie spirituelle, il y a trois grandes étapes de croissance. Comme un petit enfant, il naît, puis il grandit, il se développe. C'est pareil dans notre vie spirituelle de baptiser. D'abord, une grande période de purification. En fait, il y a toujours trois choses. Purification, illumination, union. Au début, c'est la purification qui domine. Mais il y a un peu de lumière de Dieu et un peu d'union avec Dieu. Dans la deuxième étape, c'est la lumière qui domine, l'illumination. Mais il y a toujours un peu de purification et il y a un peu plus d'union. Et dans la troisième étape de la vie spirituelle, il y a beaucoup d'union, et encore un peu de purification et d'illumination. Vous voyez ? Mais il y a ces trois grandes étapes. L'étape purgative, illuminative, unitive. Eh bien, le but, c'est d'arriver dans la troisième, les amis. Hein, d'être tellement unis à Dieu qu'on met le feu au monde. Et donc, ce pur amour, c'est quand on est dans cette troisième étape. Et qu'on dit à Jésus, du fond de notre chapelle, « Jésus, je t'aime ». Ça, c'est un acte de pur amour quand on est dans la troisième demeure, enfin dans la troisième étape. Et donc, quand on est dans cette étape-là, quand on fait « Jésus, je t'aime », ça a plus de prix aux yeux de Dieu, c'est plus profitable à l'Église que tout le travail qu'on a fait quand on était dans les premières. Ouh là là ! Ouh là là ! Vous voyez l'importance de la vie spirituelle ? Et de faire de son mieux pour faire cette croissance spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila dit, de son temps, il faut que les prêtres ne soient pas ordonnés avant d'être rentrés dans la deuxième étape. Ouh là là ! Et il ne faut pas que les évêques soient ordonnés avant d'être rentrés dans la troisième étape. Ouh là là ! Hein, donc ce n'est pas de l'oisiveté la prière. C'est l'activité la plus haute de l'être humain, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est une activité de l'âme, mais où la passivité est première, parce que c'est Dieu qui agit en nous. Et Dieu est acte pur, la pure actualité, la pure activité. Et donc c'est pour ça que les saints, ils changent le monde, parce qu'ils sont avec la force de Dieu lui-même. Ça ne vient pas d'eux, hein ? Pas du tout. Une image pour nous faire comprendre. Vous êtes déjà allé à des mariages, vous avez déjà vu les pyramides de flûtes de champagne. Hein ? Et tout en haut, il y a une flûte. On prend le champagne, on verse dans la flûte qui est tout en haut, elle se remplit, elle déborde et elle va remplir toutes les autres. Vous êtes d'accord ? Cette première flûte, et après les autres aussi, mais cette première flûte, elle remplit que avec ce qui déborde. Elle est toujours remplie. Eh bien, la vie spirituelle, c'est ça. La vie des saints, c'est ça. Ils sont tellement unis à Dieu, ils sont tellement remplis que leur apostolat, leur activité, c'est que ce qui déborde. Et donc, ils ne sont jamais fatigués, entre guillemets. Ils vont se coucher, ils sont crevés, mais ils ont toujours cette énergie incroyable. Et on se dit, mais comment font-ils ? Ben voilà, ils sont remplis de Dieu, complètement, tout le temps. Et leur action, c'est que ce qui déborde. Ben, ça doit être notre objectif, frères et sœurs, de passer beaucoup de temps dans notre vie spirituelle à prier, hein, l'adoration, le chapelet, la méditation de l'Écriture sainte, aller peut-être se balader en forêt en silence, hein, de trouver tous ces moments dans notre vie pour être unis à Dieu le plus possible. Quatrième point. Si nous, on ne fait pas grand-chose, Dieu, lui, il bosse. Jésus travaille au Saint-Sacrement. C'est ce que disait Saint-Pierre Julien Aymar. Il dit, moi j'expose le Seigneur au Saint-Sacrement pour le faire travailler. C'est lui qui bosse. Et nous, les prêtres, notre but, c'est de mettre en relation les âmes avec Jésus. Hein, on est des médiateurs, des pontifs, ceux qui font le pont. Hein, mais il faut qu'on s'efface pour amener à Jésus. Bien sûr, on enseigne, on guide, machin, etc. Mais le but, c'est qu'on amène à Jésus et qu'on laisse Jésus travailler. Des cœurs. Alors Jésus travaille au Saint-Sacrement. Une image pour nous faire comprendre. On demande à Michel-Ange, ce génie artistique, comment faites-vous pour faire de si belles statues à partir d'un bloc de marbre ? Réponse de Michel-Ange. Oh mais c'est bien simple, j'enlève juste ce qu'il y a en trop. Pour faire apparaître la statue. Bon, lui, c'est un génie, hein, il voit la statue dans sa tête et dans le bloc de marbre. Moi, non. Mais voyez l'idée ? En fait, la merveille est déjà là et il va enlever avec son marteau et son burin ce qu'il y a en trop. Eh bien, Jésus, avec nous, c'est un peu ça qu'il fait au Saint-Sacrement, à l'adoration. On lui donne du temps pour qu'il travaille notre cœur, notre âme, qu'il la change, qu'il la sanctifie, hein, qu'il la transforme petit à petit. Et donc Jésus va enlever ce qu'il y a en trop dans nos vies. Aïe, ça ne va pas être que dans la joie, l'adoration. Il va y avoir des petits moments où Jésus va nous montrer les petites choses qu'il faut enlever dans notre vie. Hein, des attachements au péché, des pardons qu'on ne veut pas donner, des jugements, des fermetures de cœur, tout ça, quoi. Mais c'est pour faire apparaître la merveille que nous sommes, cette image divine, cette image et cette ressemblance. Et oui, vous savez que Sainte Thérèse d'Avila, je crois, ou Sainte Catherine de Sienne, je ne sais plus, un jour le Seigneur lui a montré une âme en état de grâce, comment elle est vraiment en réalité. Eh bien, la sainte s'est mise à genoux parce qu'elle a cru voir Dieu. Et Jésus lui a dit non. Tu ne te mets pas à genoux devant une créature, tu te mets à genoux devant Dieu seulement. Mais tellement elle était belle, à l'image de Dieu, on lui ressemble, qu'elle a voulu se mettre à genoux. Incroyable, hein? C'est ça qui se passe dans notre cœur quand on est en état de grâce. On a une beauté hallucinante. On est à l'image de Dieu. Et donc Jésus va nous travailler, nous sanctifier, en faisant comme ça. Alors chez nous, ça va se faire petit à petit, hein, évidemment. Mais chez certains, le Seigneur instantanément donne une grâce extraordinaire pour nous montrer ce qu'il est capable de faire au Saint-Sacrement. Et là, j'ai l'exemple de la conversion d'André Frossard. Vous avez entendu parler sans doute de cet homme, hein. Il était athée, fils du premier secrétaire du Parti communiste. Donc en général, Jésus, pas trop. Et il raconte comment il s'est converti, je le cite, en visitant par hasard une église. Par hasard, sans doute pas. Je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements qui était dominé par une grande croix de métal ouvragée portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption déferlante de lumière. Joie du naufragé. Tout est dominé par la crainte, pardon, par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné. Je suis catholique. Waouh! Conversion fulgurante en présence du Seigneur Jésus au Saint-Sacrement. Comme ça. Voyez ce qu'est capable de faire Jésus au Saint-Sacrement? Alors nous, il va faire pareil, hein, mais petit à petit. Les conversions comme ça, fortes, fulgurantes, sont un peu plus rares, mais c'est pour nous aider, pour nous dire, oui, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, je vous travaille, je vous sanctifie, je vous change, j'augmente votre foi, j'augmente votre espérance, j'augmente votre amour. Il va guérir aussi. C'est un important aspect de l'adoration, le sacrement de guérison. Jésus me guérit dans les profondeurs de mon cœur. Il a le témoignage d'une jeune adolescente que le père Butet, peut-être vous avez entendu parler de ce père Butet qui a fondé la communauté eucharistaine, très eucharistique, hein, il passe beaucoup de temps aussi à adorer le Seigneur, et puis s'occupe des gens qui sont très blessés, très abîmés sur le plan psychique, psychiatrique, dans les vies difficiles. Et donc là, une jeune fille qui raconte qu'elle voulait se suicider, plusieurs tentatives de suicide, des séjours en hôpitaux psychiatriques, elle est un peu insupportable, elle est en grande souffrance. Et elle raconte ce qui s'est passé avec le Saint-Sacrement. Elle dit, à la fin de l'année scolaire, j'avais envie de crier à mes camarades la détresse qui me rongeait, ce dégoût de la vie qui me poussait à faire n'importe quoi. J'aurais tant voulu laisser tomber mon misérable corps dans le Rhône. Et puis elle rencontre le père Butet qui l'invite à passer du temps dans sa communauté, et il l'emmène au Seigneur, au Saint-Sacrement. Et elle est touchée, et elle demande si elle peut revenir la nuit, parce qu'elle ne dort pas, elle a des angoisses la nuit, elle n'est pas bien, et donc elle dit au moins là, ça va être mieux. Elle dit, je voudrais revenir toutes les nuits, Il me dit non, tu viens qu'une nuit sur deux, parce qu'il faut que tu dormes aussi quand même un peu. Et elle a passé 9 nuits à adorer, et elle raconte ce qui s'est passé. Elle dit, le Seigneur devra m'écouter cette fois, je vais aller devant lui et je vais le supplier de m'aider. Pendant 9 nuits, je présentais mes blessures au Saint-Sacrement et Jésus les pansait. Pendant 9 nuits, je laissais sortir toutes les meurtrissures de mon âme et la Vierge Marie me berçait dans ses bras pour m'apaiser. J'étais tombé si bas, que je me suis cassé le nez sur Jésus et comme un trampoline, il m'a renvoyé vers la lumière. Merveilleux, hein? On ne peut pas tomber plus bas que Jésus, frères et sœurs. Il a pris la dernière place. C'est ce que dit le confesseur de Charles Foucault, l'abbé Huvelin. Jésus a tellement pris la dernière place qu'on ne pourra pas lui prendre. C'est la sienne. Donc si bas que nous tombions, si épaisses que peuvent être nos ténèbres, nos souffrances, Jésus est au fond de tout ça. Quelle bonne nouvelle! Il est venu à l'extrémité de la mort, par sa croix, il a rejoint nos ténèbres. On ne peut pas aller, il a tout, il est allé partout. C'est merveilleux. Et il est capable d'accueillir tous ceux qui se sentent vraiment mal, tout en bas, pour les renvoyer à la lumière. Hein, alors, ayons foi. Que Jésus travaille, donnons-lui le temps, même si on ne ressent rien. Je vais y venir plus tard, même si on ne ressent rien. Cinquième point, les soucis. Principal obstacle à la vie de prière, d'adoration, les soucis. Qui n'a pas de soucis? J'ai jamais vu une main se lever quand j'ai posé cette question. Et oui, frères et sœurs, nous sommes dans un monde blessé, pas droit, abîmé. Et donc, il y a la croix. Nous avons nos croix, nos souffrances, nos difficultés, nos angoisses, les épreuves, voilà. On en a tous, certaines fois bien lourdes, bien difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces soucis? Encore un témoignage du Père Butet, une femme qui vient passer 3 heures d'affilée chaque jour, pendant quelques jours, dans sa chapelle. Mais il remarque que cette femme arrive très triste, très tourmentée, qui a un poids sur son cœur. Et elle repart, elle est encore plus triste. Alors il se dit, il y a un problème. Il va la voir. Et il dit, mais est-ce que vous allez bien, madame? Et il dit, bah écoutez, oui, vous allez bien, je viens prier 3 heures chaque jour. Et il lui pose cette question. Vous pensez à qui quand vous êtes à l'adoration? Et il répond, à mon fils. Parce que mon fils a perdu son boulot, il a des problèmes d'alcool, il a divorcé, enfin bref, c'est la cata, quoi. Et cette maman, et c'est légitime, hein, elle souffrait pour son fils, de ses souffrances difficiles, voilà. Alors, quel était le problème de cette femme? Bien sûr qu'on vient intercéder, prier pour ce qu'on aime. C'est un des grands aspects de l'adoration, l'intercession. On prie, on donne à Jésus, on prie pour ce qu'on aime. On les confie à Jésus, mais on les confie à Jésus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de déposer ce fardeau que nous avons aux pieds de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas porter la croix tout seul. Le drame, c'est qu'on ne parle plus de la croix. On n'en parle plus. Ou si peu. Un jour, un prédicateur commence à parler du mystère de la croix. Et du crucifix, une femme un peu mystique entend « Ah bah enfin on parle de moi !» C'est Jésus qui dit ça. « Enfin on parle de moi !» On est dans une société hédoniste qui valorise uniquement le confort et le plaisir. Et donc le mystère de la croix, ça gratte un peu. On veut du ressuscité mais pas du crucifié. On l'aura pas le ressuscité sans le crucifié. C'est une seule et même personne. Et pourquoi le drame, c'est qu'on ne parle pas de la croix alors qu'on a tous nos croix, on a tous nos galères, on a tous nos souffrances. Et si on n'en parle pas, avec cette perspective chrétienne, du sens qui est donné dans la souffrance, de la transformation de la souffrance en rédemption par Jésus, eh bien on ne peut pas aider les âmes. Parce que même si on n'en parle pas, les souffrances, elles sont là. Hein. On n'est pas doloriste, hein. C'est pas, faut que ça saigne, Jésus est content quand on en bave, évidemment non. Mais il y a le mystère de la croix dans la vie chrétienne. Et le drame, c'est que quand on rejette la croix, c'est spontanément la réaction première qu'on a, hein. La révolte, eh bien on rejette Jésus qui est sur la croix. Et il ne peut pas déployer sa puissance. Et on est écrasé par la croix, au lieu d'être porté par elle. C'est ça le paradoxe. L'accueil de la croix libère la puissance rédemptrice de Jésus. Le « oui, Seigneur, j'accepte ». Souvent, il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années de révolte avant le « oui ». On dit non d'abord. C'est un langage difficile, mais saint Paul le dit de son temps déjà. C'est un scandale pour les païens, une folie pour les juifs ou l'inverse, je ne sais plus. Mais c'est pareil aujourd'hui. Hein. Le mystère de la croix, ça coince. Mais Jésus veut que nous le vivions pour déployer la puissance rédemptrice. Donc on accueille ces épreuves, mais on les dépose aux pieds de Jésus parce que Jésus veut porter ma croix avec moi. Et si je ne le dépose pas, si je ne dis pas oui, eh bien, je ne pourrai pas accueillir Jésus qui porte. Je serai tout seul et je serai écrasé. Donc on ne veut pas de la croix et on a oublié un autre élément aussi de la foi chrétienne, le mystère de la providence de Dieu pour nous. Même de bons théologiens, l'évacue. On entend parfois des prêtres qui disent « Dieu tout-puissant d'amour ». C'est une forme de négation de la véritable toute-puissance divine. Je lis le catéchisme de l'Église catholique au numéro 303, qui nous a été donné par saint Jean-Paul II, la cheville ouvrière, vous savez que c'était Benoît XVI, hein, Ratzinger, le cardinal. Le témoignage de l'Écriture est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète. Concrète. Dans ma vie de tous les jours, à moi, aujourd'hui, en 2020, à Chaland. Jésus s'intéresse à moi, à ma petite vie, à mes problèmes matériels, financiers, de travail. Immédiate. C'est Dieu lui-même qui est là, qui agit. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Donc, y compris le Covid. Il faudrait peut-être le dire à Macron, ça. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Mamma mia, mais nous, notre foi, je ne pense pas qu'elle est là en fait. Hein. On manque de foi. Mais le catéchisme vient nous encourager à dire « mais faites confiance au bon Dieu ». Le psaume 115, « Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait ». Dans l'Apocalypse, en parlant du Christ, « S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira ». Et le livre des Proverbes, « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Seul le dessein de Dieu se réalisera ». Donc nous, on a peut-être plein de projets, mais ce n'est peut-être pas les projets du bon Dieu. Seulement le projet du bon Dieu va se réaliser. Et donc notre vie d'adoration, ça ne va pas être de faire changer le bon Dieu. Ça va être de nous changer, nous adapter, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, le plan du bon Dieu. Témoignage personnel, je voulais me marier quand j'étais jeune, heureusement que je ne suis pas marié. On m'aurait dit ça il y a 30 ans, j'aurais dit « Quoi, je vais devenir prêtre ?»« Ah non, jamais. Fuyons !» Mais heureusement que je me suis laissé guider et d'accueillir ce plan d'amour de Dieu pour moi. Alors évidemment, on prie pour ce qu'on aime, évidemment. Mais après, on dépose aux pieds de Jésus. « C'est toi qui gères, Seigneur. Moi, je ne suis pas capable de gérer ça. Ça me dépasse. Je ne suis pas tout puissant. » Et je vous rappelle, frères et sœurs, que Jésus, il aime tous ceux qu'on aime beaucoup plus que nous. Hein. Et il veut les sauver, les emmener au ciel beaucoup plus que nous, puisqu'il les aime parfaitement. Et que nous, notre amour est très imparfait. Et donc, on prie, on fait ce qu'on peut, évidemment, on est disponible pour aider, pour voilà. Mais après, on dépose aux pieds de Jésus. Seigneur, c'est toi qui gères. Alors nos montagnes vont se transformer en collines. Non pas que la situation aura changé, c'est mon regard qui va changer, parce que je serai avec Dieu. Je regarderai avec les yeux de Dieu, et plus avec le désespoir. Oh là là, c'est la catastrophe absolue. Jésus est là. Jésus est là. Il me conduit sur le chemin, même et surtout quand il y a les épines. Alors apprenons cela à l'adoration, à nous abandonner. C'est ce que demande Jésus, hein ? Catéchisme numéro 305. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Hein, on s'abandonne et on lâche notre fardeau. Jésus, tu gères. Sixième point, la question du regard quand nous sommes à l'adoration eucharistique. Et là, j'ai un témoignage personnel à vous donner. Donc, j'ai eu la grâce d'une conversion à l'âge de 23 ans, même si j'avais quand même un peu la foi avant. J'allais de temps en temps à la messe, mais je vivais vraiment comme un païen grand pécheur. Mais en première, donc j'avais 16 ans à peu près, le lycée catholique dans lequel j'étais, c'était en Touraine, à Tours même, au lycée Saint-Grégoire. L'aumônier, abbé de Saint-Martin, le père de la communauté Saint-Martin, qui est venu quelques années et qui a fait beaucoup de bien, il a organisé une nuit d'adoration pour le lycée. Et jamais entendu parler d'adoration, jamais. Mais je me suis inscrit tout de suite. Pourquoi ? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites. Et oui, j'avoue. Mais Jésus, il sait s'y prendre, hein, pour nous attirer à lui. Et donc, j'ai fait cette nuit d'adoration. Alors, on était dans la sacristie de la cathédrale de Tours, et avec du chauffage, parce que c'était l'hiver, et puis du café, et puis on discutait, voilà. Mais on allait à l'adoration de temps en temps. Et moi, j'y suis allé une fois seulement, pas une heure, mais peut-être 15 minutes, je ne me rappelle plus trop, mais dans ces eaux-là, je pense. Et donc, je me suis approché du Saint-Sacrement, et j'ai regardé l'hostie, et j'ai expérimenté qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Ouh là là, je ne pouvais pas me cacher. C'était un regard très pénétrant, plus pénétrant qu'un scanner. Je ne pouvais pas me planquer. Donc un regard très fort, mais en même temps très doux, plein de bonté, de douceur, paradoxal. C'est le regard divin. Pourquoi je vous fais ce témoignage ? Parce que n'oublions pas quand nous adorons que Jésus est là en personne, avec son corps, son âme, sa divinité. Donc s'il est là avec son corps, il me regarde. Jésus me regarde, il me sourit. Et donc il faut se laisser regarder par Jésus. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile, qu'est-ce qui se passe quand Jésus regarde quelqu'un ? Le jeune homme riche, chez Saint-Marc. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Donc, si on se laisse regarder par Jésus, si on autorise Jésus à nous regarder le fond de notre âme, de notre cœur, on se laisse aimer. C'est aussi simple que ça. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre sans l'amour divin. C'est impossible. On est fait pour ça. C'est dans nos gènes. On est fait pour ça. Seul l'amour de Jésus comble mon être profondément. Quand il y a l'amour de Jésus, tout va bien. Même s'il y a des souffrances, même s'il y a des difficultés, les épreuves, elles sont là. Il y a l'amour de Jésus. Il est là. Ça change tout. Ça change tout. Donc n'oublions pas cet aspect du regard de Jésus sur moi. Je me laisse regarder, je me laisse aimer. Il faut déposer les armes, hein, ouvrir son âme. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'on veut se cacher, on a peur de sa misère, on voit qu'on a du mal à s'aimer. Et puis dans notre vie, on a peut-être des caves avec des portes bien fermées à double tour pour voilà, qu'on a mis bien à la cave des choses de notre vie. Et on ne veut pas y aller. Peut-être des souffrances, des traumatismes, des sentiments d'abandon, de ne pas avoir été aimé comme il fallait, etc. Des grandes souffrances, peut-être de l'enfance, hein, de l'adolescence, de la vie d'adulte, enfin voilà. Et ça, on a mis à la cave. Et on a fermé à double tour. Et on ne veut pas y aller. Et Jésus va dire, tiens, c'est quoi cette porte, hein? Si on y allait, si tu venais avec moi en bas, là, là où ça sent pas bon, là où c'est moche, là où il n'y a pas de lumière, alors ça peut prendre des années avant d'ouvrir. Et Jésus est patient. Mais il faut un jour ouvrir, frères et sœurs. Il faut se laisser rencontrer dans notre misère. Jésus a épousé ma misère. Il l'a sauvée. Mais donc, il faut le laisser aller. Mettre sa lumière, son amour. Et puis nous aussi le regarder, frères et sœurs, se laisser regarder par Jésus, mais aussi le regarder avec nos yeux. Hein, donc, au moins quelques minutes pendant l'heure, on ouvre nos yeux et on les pose sur le Seigneur, sur le Saint-Sacrement. Il paraît que Saint Pierre Julien Aymar arrivait, il se mettait à genoux et paf, il était captivé et les yeux grands ouverts fixaient l'hostie pendant une heure. Bon, ça c'est des saints, des grâces particulières, hein, mais on regarde Jésus, c'est l'incarnation, il y a un signe visible, on pose nos yeux dessus. Parce que ça purifie aussi notre cœur. Hein, on est fait pour voir la beauté divine. Et on va s'en rassasier pendant l'éternité. Mais le problème sur cette terre, c'est qu'on voit beaucoup de mocheté, de laideur. Hein. Pas besoin de vous faire de dessins, internet, et puis ces horreurs qu'on peut voir, hein, violence, pornographie, voilà, le monde, même les infos, hein, le journal télé, on voit que des mauvaises nouvelles, hein, que des choses moches, hein, ou 99% de choses moches. Eh bien, ça nous abîme. Ça nous abîme. C'est le démon qui en profite aussi, hein, cette sinistrose-là, pour nous déprimer, nous décourager. Et donc, regardez Jésus, ça va nous redonner l'espérance. Un regard plein de vérité sur le monde. Hein. On n'est pas naïf, mais un regard qui est le regard de Dieu. Et ça purifie mon cœur, mon âme. Toutes ces mochetés que je vois, eh bien, sont purifiées par le regard sur Jésus. Hein, donc les deux, se laisser regarder et regarder Jésus. Septième point, les sécheresses, les aridités, les tourments, je m'ennuie, j'ai envie de partir. Alors que je suis là depuis 2 minutes 40. Qu'est-ce que je fais ? Je ressens rien, j'ai des tourments, des tentations, c'est sec, c'est aride, c'est dur. Mais question, est-ce qu'on va voir Jésus pour nous-mêmes ou est-ce qu'on va voir Jésus pour Jésus? Est-ce qu'on y va pour ressentir? Là, on est encore un peu centré sur soi, du coup. Ou est-ce qu'on est pour se perdre en Jésus et le regarder, lui, sans se regarder? C'est un long apprentissage, hein, de se détacher des petites consolations que le Seigneur nous donne, ou des grandes même consolations que le Seigneur nous donne. Parce qu'il va nous en donner, surtout au début. Il nous attire. Et il sait que nous sommes faibles, alors les petits bonbons. Hein, j'en ai déjà parlé vendredi soir un peu, je crois. Les petites consolations spirituelles. Je ressens, j'ai une joie. Oh là là, ça fait gouzi-gouzi dans mon petit cœur. C'est de la lumière, j'ai compris quelque chose dans l'évangile. Waouh, une joie, etc. Ça ne va pas durer. Vous êtes content d'être venu? Hein, je dis souvent que je ne vous vends pas un produit pour dire « allez, 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 ça va être bien, ça va être beau ». Oui, il va y avoir des joies, mais il va y avoir aussi beaucoup de sécheresse, d'aridité. C'est le lot de la prière. La prière est un combat, frères et sœurs. Hein. Ce n'est pas facile. Il faut persévérer. Et c'est très important de persévérer parce que sinon on déjoue les plans divins. C'est la cata. Sainte Faustine, pendant une heure d'adoration. Petit journal numéro 871. Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à l'oraison ou à l'adoration, malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car pour la plupart, c'est d'une telle oraison que dépend la réalisation des desseins de Dieu, qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans cette prière, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir par nous ou en nous. Que chacun se rappelle ces paroles de l'Évangile. En proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. À l'agonie, quand c'est la passion qui arrive, quand c'est dur, Jésus y prie plus. Nous, souvent, quand c'est dur, on a envie de prier moins. On va aller boire un coup avec les copains au bistrot, on va faire un peu de guitare, etc. On va aller voir un match de foot, on va aller dîner avec des amis, et puis dire oh non, ce soir, je vais pas à l'adoration. On se trompe. Il faut prier plus quand c'est dur. C'est ce que Jésus nous a montré à la passion. Saint-Pierre, Julien et Marc, vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous. Tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. Vous voyez, les saints, ils vivent ça. Ils vivent ça. N'écoutez pas cette tentation. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Ah, on part pas à 59 minutes. Eh oui, on part pas à 59 minutes. On reste jusqu'au bout. Et même certains spirituels disent « donnez une minute de plus dans ce cas-là ». Et parfois, une minute, quand on a vraiment envie de partir, ça peut paraître très long. Mais pour montrer à Jésus « alors vraiment, je suis venu pour toi, Jésus, je te donne une minute en plus ». On ne part pas avant, on s'accroche. Parce qu'en plus, le Seigneur, il est malin, souvent les grâces, il les donne à la fin. Donc si on part 5 minutes avant, ben on a loupé la grâce. Et mince alors, quel dommage. Hein, on persévère. C'est comme au sport, hein. On veut être bon au footing, il ben faut courir souvent. On veut être bon au marathon et le finir, il faut s'entraîner. Et au sport, plus on pratique, plus on est bon. Hein. Federer, il est très doué par nature, je pense, mais il a beaucoup bossé. Hein. C'est pareil avec la prière. Plus je prie, plus c'est facile de prier, même s'il y a des difficultés de sécheresse et tout ça. Ça devient facile. C'est ce qu'on appelle la vertu. La vertu nous fait faire facilement les choses. Au début, c'est dur. Mais on s'accroche et on persévère. Et plus on prie, plus on veut prier, en fait. Et moins on prie, moins on a envie de prier. Donc il y aura des moments difficiles, frères et sœurs, mais on s'accroche, parce que Jésus est bon, hein, et il nous récompensera. Dernier point, donc le 8e, si je n'en ai pas oublié, quand l'adoration se transforme en adodoration. Ah ben je vois qu'il y a des connaisseurs, hein. J'arrive à l'adoration, je suis à la fin de journée par exemple, je suis fatigué de ma journée de travail, enfin voilà. Et puis je pique de nez, ou c'est le matin et je me suis mal réveillé, ou c'est la nuit, puis j'ai du mal à rester éveillé, hein. Je pique du nez et puis je m'endors. Est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, non. Parce que même les saints s'endormaient pendant qu'ils priaient. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez sans doute. L'immense petite Thérèse, c'est une géante, hein. Il y a les fleurs de Thérèse, il y a le petit sucre en apparence dans sa doctrine, mais en fait c'est une guerrière. Hein. C'est vraiment une guerrière, hein. C'est pas gousi-gousi les petits oiseaux. Hein. Derrière son langage un peu comme ça, c'est du lourd, c'est Saint Jean de la Croix. Hein. Elle dit, déjà elle se met pas en colère contre elle-même. Oh, vraiment, je me suis endormi, je suis un gros nul, hein, vraiment, il faut que j'arrête l'adoration, je ne suis pas un bon chrétien, etc. Non. Thérèse, elle est humble. Ça, c'est de l'orgueil. Thérèse, elle est humble. Elle sait qu'elle est pauvre et que son corps, de temps en temps, s'endort, il a besoin de sommeil. Il bon, faut dire qu'elle se levait très tôt et elle ne se couchait pas très tôt, à mon avis. Hein. Je crois que c'était au moins le 4h30 ou 5h de le lever. Hein. C'était bon. Alors elle s'endort, elle ne se met pas en colère contre elle-même. Elle s'exclame avec un cœur d'enfant, ô Jésus, que ton petit oiseau, c'est elle, est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau lorsqu'il veut fixer le divin soleil, c'est l'Eucharistie, et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. C'est très poétique, hein ? Thérèse est en train de raconter qu'elle s'endort à l'adoration, quoi, hein ? Mais de manière poétique. Alors, on ne fait pas dire à Thérèse qu'elle n'a pas dit, c'est pas une invitation à la paresse, chic, c'est mon heure d'adoration, je vais pouvoir faire la sieste, évidemment non. Si on s'endort à chaque fois, on change de créneau horaire. Et oui, le but, c'est pas de dormir, hein. Donc, voilà, mais de temps en temps, bon, ça peut arriver, c'est pas la fin du monde. Alors, Thérèse en remet une couche. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce ? Eh bien non, je ne me désole pas. Écoutez bien, je pense que les petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Alors souvent, il y a des mamans qui me disent « beaucoup plus mon père parfois ». Et oui, je confirme, j'ai pas d'enfant évidemment, mais j'ai 5 frères, on est 6 garçons, pas de sœurs, pauvre maman. Et il y en a 4 de mariés. Le dernier va peut-être bientôt se marier. Et il y a déjà 12 petits-enfants et nièces. Enfin, neveux et nièces pour moi. Alors quand je rentre à Noël pour quelques jours, je joue avec mes petits-neveux nièces. J'aime beaucoup les enfants. Hein. Je fais beaucoup le caté. Donc voilà, je suis un peu un oncle le prêtre gâteux. Et le soir, je rentre. On a une grande maison assez grande. Et puis j'ai deux petites pièces un peu à l'écart où j'ai une petite chapelle. Et je vais prier. Et je dis, merci Jésus pour ma vocation. Oh là là, je sais pas comment ils font. Et j'admire mes frères et mes belles-sœurs. Oh là là, parce que c'est petit, hein. Les 12, c'est entre 2 mois et 10 ans, quoi. Hein. Donc, voilà, j'admire. C'est du sport, hein. Vraiment. Mais il y a les grâces d'État. Donc, eux, ils ont reçu la grâce d'être parents. Moi, j'ai eu la grâce d'être prêtre. Hein, donc, chacun sa grâce. Mais j'admire. Thérèse, toujours. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Peut-être que si je me suis endormie, c'est que Jésus voulait avoir la paix. Hein, pour pouvoir travailler tranquillement. Enfin, je pense, dit Thérèse, que le Seigneur voit notre fragilité. Et oui, il sait qui nous sommes, il nous a créés. Et donc, quand on est fatigué, le corps a besoin de sommeil, bah, il s'endort. La nature est bien faite. Donc Jésus le sait, tout ça. Et il sait bien si c'est du sommeil de vraiment une fatigue ou si c'est du sommeil de paresse. Hein ? Parce qu'il y a un sommeil de paresse, peut-être. Vous voyez, j'ai pas trop envie de faire d'efforts. Je pars un peu dans mes rêveries et puis je finis par roupiller. Vous voyez, c'est pas ça. Hein ? On essaye de lutter un peu quand même. Hein ? Et elle cite, Thérèse, le psaume 127, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Hein, » Donc, encore une fois, on ne fait pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Hein. Si ça nous arrive de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Si ça nous arrive tout le temps, on change de créneau. Hein, le but, c'est de ne pas dormir. Voilà. J'ai fini avec mes 8 points pour vous aider à vivre ces heures d'adoration. Hein, on persévère, on s'accroche. Ce ne sera pas facile certaines fois, certaines périodes, de plusieurs mois peut-être, où ça sera dur. Hein, on s'accroche, on se visse à sa chaise. Seigneur, je ne pars pas, je reste, même si c'est dur. Voilà, maintenant je peux entendre quelques questions, pour ceux qui auraient des questions. Alors je devance une question qui arrive très souvent. Est-ce qu'on peut prier le chapelet, mon père, à l'adoration ? Oui. C'est pas moi qui le dis, il ne le dit pas directement, mais c'est Saint Jean-Paul II. Vous savez que c'était un grand amoureux de la Vierge, hein, Totus Tuus. Et il a écrit une encyclique qui s'appelle Rosarum Virginis Mariae, qui parle du rosaire, du Saint-Rosaire. Et Il dit dedans que la prière du rosaire, du chapelet, est une prière christocentrique, qui est centrée sur Jésus. Hein? On médite les mystères de la vie de Jésus avec Marie. Donc on n'est pas, on est tourné avec Marie vers Jésus, voyez? On ne prie pas Marie seulement. Hein? Quand on prie Marie, elle se tourne avec nous vers Jésus. Elle nous apprend la prière. Donc vous voyez, c'est tout à fait indiqué. Mais c'est une prière vocale, donc il faut peut-être pas passer toute l'heure à dire son chapelet. Vous voyez ce que je veux dire? Pour réserver du temps au silence. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de prières, hein? La prière vocale où nous parlons, hein? Le bréviaire, le chapelet, hein? On est actif, mais il faut laisser un grand espace dans cette heure d'adoration pour apprendre à rentrer dans le silence. D'accord? Donc la prière du rosaire est très efficace pour nous recueillir. Hein? Donc peut-être sur le chemin, on le prie, et puis on peut encore faire une ou deux dizaines pendant, mais je conseille de ne pas passer toute l'heure à dire deux chapelets, quoi. Vous voyez? Parce que là, pour moi, ça empêche un peu d'entrer dans ce silence. Enfin, bien sûr que la Vierge nous y mène, mais on est quand même dans la prière active de la prière vocale. Voilà, donc on peut.
Seulement, est-ce que vous pourriez développer un peu plus, être présent à la présence?
En fait, tout notre petit travail, c'est de demander la grâce déjà de se recueillir. Alors, c'est vrai que le chapelet est très puissant pour nous recueillir, hein, pour rassembler notre cœur, parce que nous sommes dispersés, hein, dans notre vie, hein, ça part dans tous les sens. Et donc, le chapelet est très fort, très puissant pour recueillir, hein. Donc, recueillir, c'est quand on est recueilli, ben, on est présent. Vous voyez, on est là. Donc, après, je n'ai pas de technique au sens strict, hein, parce que la prière n'est pas une technique. Ça aussi, c'est une des difficultés du monde moderne dans lequel on vit, hein, qui est dominé par la technologie, la technique. Hein. J'ai eu monsieur Hadjadj, Fabrice Hadjadj, vous avez entendu parler peut-être, hein, comme prof de philosophie. C'est une grande grâce, parce que voilà, une intelligence très supérieure, fascinant. Et il appelle la société aujourd'hui, mais je crois qu'il le reprend d'un philosophe, la push button society. La société où on appuie sur un bouton. Hein, donc il n'y a pas de technique au sens strict. C'est un petit effort de recueillement. Et puis quand on sent qu'on est un peu agité, eh bien, on demande au Seigneur, Seigneur, viens calmer mon cœur, viens m'aider à me recueillir. Voilà, peut-être méditer un peu d'écriture sainte, hein, de prendre un passage de la vie de Jésus. Voilà, mais il n'y a pas de technique, hein. On ne peut pas appuyer sur un bouton. Et voilà, en fait, s'efforcer d'être présent à la présence. Bon, mais moi, je vous avoue que j'avais beaucoup d'heures d'adoration et je pense qu'il y en a beaucoup où je suis un peu parti. Enfin, voilà, je suis pauvre, hein. Je suis pas très fort à la prière. Alors, il y a des belles heures, évidemment, des belles heures de grâce où on est vraiment recueilli et que vraiment le Seigneur, on sent qu'il fait merveille. Mais ça, c'est vraiment la toute petite minorité des heures. Hein. La plupart du temps, on a l'impression de ne pas avoir trop bien prié. On se dit, voilà, Seigneur, j'étais quand même un peu parti. Alors, ne jugeons pas notre prière. Essayons de ne pas la juger. Hein. La première qualité d'une prière, c'est une prière qui est faite. Hein, déjà, voilà. Et puis, Dieu voit notre bonne volonté. Donc, voilà, faites des actes intérieurs de bonne volonté en disant, Seigneur, voilà, je veux vraiment être là avec toi. Après, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, bah, ça nous fait grandir aussi en humilité et puis d'accueillir cette pauvreté, voyez? Mais c'est vrai que le chapelet aide beaucoup, hein, pour le recueillement. Et puis aussi notre vie en dehors de la chapelle. C'est-à-dire que si en dehors, on passe notre temps à surfer sur Internet, ça ne va pas nous aider. Ça nous éparpille. C'est l'inverse du recueillement. C'est pour ça que je déconseille très fortement de lire des articles ou des choses sur Internet, de lire un livre sur Internet, parce que ça nous excède, on n'arrive pas à se recueillir. Hein, le livre a le but de recueillir, alors que sur Internet, ça nous, voilà, l'écran n'est pas une aide précieuse pour le recueillement. Donc c'est un peu un tout aussi, hein, cette capacité de se recueillir. C'est vrai que les chartreux, je pense qu'ils sont en silence tout le temps et quand ils ont leur demi-heure d'oraison ou d'adoration, ils doivent être un peu aidés quand même par cette vie de silence. Pas nécessairement, hein, je pense qu'il y a aussi des combats, mais Voilà, mais peut-être en venant, prenez le chapelet et puis demandez à la Vierge de vous recueillir, parce que c'est elle la parfaite adoratrice de Jésus. Hein, donc il faut demander à Notre-Dame de nous aider à devenir des bons adorateurs. Comme une mère, elle va nous apprendre, hein, petit à petit. Saint-Pierre Julien et Marc dit qu'elle passait son temps près du tabernacle, après l'ascension du Seigneur. Hein, c'est son hypothèse théologique, qu'elle était là, et que c'est que parce que Marie adorait le Saint-Sacrement que Pierre convertissait 3000. Hein, parce que si Marie n'avait pas été là, c'était une conversion.
Pour l'adoration, pour les enfants.
Donc, merci pour cette question. Évidemment, effectivement, j'ai fait le catéchisme pendant les 5 années depuis que je suis ordonné diacre, 4 ans de sacerdoce, 1 an de diaconat. Et j'ai fait l'adoration toutes les semaines aux enfants du caté de la paroisse, et puis une fois par mois pour les enfants à l'école. Les autres, enfin, je les avais toutes les semaines, mais je ne pouvais pas faire une fois par semaine à l'école parce que c'était plus compliqué. Mais... Et donc j'ai vu que les enfants plongent tout de suite dans l'adoration. Mais il faut un peu les occuper quand même. Alors comment faire ? Eh bien, les faire chanter. Alors moi, je suis paresseux, je suis un peu musicien, mais pas assez pour mener. Et donc, j'ai pris mon ordinateur avec une belle enceinte de bonne qualité Bluetooth et je mets des chants sur YouTube, des beaux chants d'adoration, de méditation. Et ils sont fans. Ils apprennent en une fois, ils le savent par cœur. Et ces chants méditatifs qui sont très beaux, hein. Moi il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Mon préféré en ce moment, c'est Regarder l'humilité de Dieu, je le trouve vraiment magnifique. Hein, donc voilà, mais on a besoin d'une dizaine, hein, pas plus, hein, en tout. Moi je tournais avec 5-6 même. Hein. Et voilà, on les fait prier, donc déjà, vous voyez, il y a 4-5 minutes de chant. Pour les, voilà. Après, je fais une dizaine de chapelets avec eux. Parce que Marie. Eh ben, c'est la parfaite adoratrice. Et Marie, je l'ai remarqué parce qu'au début, j'étais un peu novice et puis je n'ai pas pensé tout de suite. Et j'ai vu que depuis que je mets le chapelet, c'est extraordinaire. La puissance de la Vierge pour le recueillement. Et voilà. En fait, on fait bosser notre Seigneur et notre Dame. Hein, et donc, une dizaine. Et je les fais participer, les enfants. C'est-à-dire que chacun leur tour, ils commencent le Notre Père, puis le Jésus, c'est le Marie, et puis tous les autres enfants finissent, vous voyez. Et donc, ils sont attentifs parce qu'ils veulent être le prochain. Ils lèvent la main et donc, ils ne se disputent pas avec les voisins. Donc, la dizaine de chapelets. Et ensuite, j'arrive très facilement, mais vraiment très facilement, à avoir 5-6 minutes de pur silence. Où les enfants plongent. Il y a peut-être un ou deux qui va se retourner, qui va chahuter, mais je les ai par 40 à 50, moi. Vous voyez, donc, il y a les catéchistes qui sont là, mais bon, moi, je mène la prière d'adoration, évidemment. Et ils sont à fond, hein. Et j'ai pas à faire de la police, jamais. Et des paroissiennes sont passées, voilà, des paroissiennes depuis longtemps, qui passaient par là, elles ont vu ces 40 ou 50 enfants en silence à l'adoration, elles ont dit, mais c'est extraordinaire, mais oui, c'est extraordinaire, mais c'est tout simple. C'est tout simple. Donc moi, je vais peut-être faire ça aussi dans mes missions, pourquoi pas, hein, aller visiter les écoles, pour faire découvrir cette merveille de l'adoration. C'est simple, on les fait chanter, c'est ma méthode, après on peut trouver d'autres méthodes, hein, mais on les fait chanter, on les fait dire une dizaine, et après il y a facilement 5 minutes, peut-être même un peu plus. Hein. Alors les 4-5 ans, ce serait plutôt 10 minutes en tout, hein, 10-12 minutes, et puis les grands, j'arrivais à 20-25 minutes avec les CM2, hein, facilement, hein, voyez. Donc voilà, mais il faut les occuper. Hein. Et puis après, j'aimais bien les bénir aussi individuellement. Donc là, ça pouvait prendre plus de temps. Et ça, ils aimaient beaucoup. Et donc, nous, on a des plages horaires de caté assez longues. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais nous, c'était, j'aimais bien les avoir longtemps, moi, les enfants. Donc, c'était 1h30. Donc, j'avais d'abord une petite vidéo de l'histoire de la Bible. Et puis, je leur parlais pendant 10 minutes. Après, ils partaient avec les catéchistes pendant 45 minutes. Voilà. Et après, ils venaient pour un quart d'heure, 20 minutes d'adoration. Et souvent, ils disaient... à la fin de la leçon, c'est quand qu'on va à l'adoration. C'est quand qu'on va à l'adoration. Ils avaient envie, quoi. À la fin de la leçon, et en fait, le catéchisme, c'est ce que dit Catechesi Tradendi, c'est l'exhortation de Jean-Paul II sur le catéchisme, la catéchèse, c'est de mettre en présence de Jésus. Hein. C'est complètement le Christ, hein, qu'il faut annoncer dans la catéchèse, et il faut mettre en présence de Jésus. Donc il y a la leçon, mais il faut... Le maître, on a parlé de Jésus, bah, il est là. Hein. Donc on les amène à Jésus. Sinon, on loupe un peu le but de la catéchèse. Hein. La catéchèse, c'est mettre en lien avec Jésus. faire découvrir la personne de Jésus. C'est lui qui est venu nous sauver, c'est par lui que nous allons au Père, donc on va à Jésus. Voilà, donc l'adoration des enfants, n'ayez pas peur, hein, foncez, mais il faut un peu les occuper. Après les ados, j'ai un peu plus de mal, j'avoue. J'y arrive pas. J'ai pas la patience, c'est pas ma grâce, quoi. Moi, j'ai plutôt les petits.
Oui, j'avais une question. Vous parliez des chants, à propos des chants. Alors, moi, je suis pas une vieille chrétienne, si je puis dire. Et pour moi, à partir du moment où on a un chant, où on dit qu'on aime Jésus, mais qui n'est pas classé dans le livre à la page adoration, est-ce que c'est valable quand même ?
Oui, évidemment.
Ou est-ce qu'il faut prendre que les chants qui
non,
sont
mais non, 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 bien sûr que non. Ce qu'il faut, enfin, après, moi, ce que je trouve, c'est que pour l'adoration, il faut des chants qui soient d'adoration et pas de louange, pas trop excité. D'accord. C'est juste ça que je dis, moi. Après, s'il n'est pas dans la case adoration, mais qu'il est très recueillant et que les paroles sont belles et pleines de belles choses, évidemment. Hein, mais j'ai remarqué que il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la louange et la louange après nous conduit à l'adoration, donc on peut faire peut-être un temps de louange avant et après on expose avec des parce que je faisais aussi des chants plus festifs, mais au début hein, de l'heure de catéchisme, moi ce que je promeus, c'est vraiment des chants qui nous aident à nous recueillir, hein, à rentrer dans l'adoration, hein, mais voilà, après vous discutez autour de vous, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chant qui aide au recueillement et qui est beau, bah on fonce, hein. Pas de problème.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont dans l'adoration perpétuelle ? Comment ça se passe ? Qui ont déjà une expérience et voir d'autres villes d'autres pays ?
Oui. Alors en France, on a notre petite communauté. Alors ça existe dans beaucoup de paroisses, de l'adoration ponctuelle, hein, une heure ou deux par-ci, une heure ou deux par-là. Mais nous, on promeut vraiment une espèce de chapelle perpétuelle, enfin en tout cas un long temps continu, c'est notre désir. Et en France, il y a plus de 100 chapelles qui sont avec un temps continu comme ça. Plus de 100 en France. Et on a des missions aussi à l'étranger. Donc c'est vraiment un mouvement qui va se déployant. Hein. Et ça marche par bouche à oreille. C'est-à-dire que là, le curé de Chaland va dire tout autour de lui « Ouais, c'est super, ça marche bien, l'adoration, faites ça chez vous, vous voyez, dans vos paroisses. » C'est comme ça que ça marche. Hein, je suis allé à Lille une fois, et puis ça s'est très bien passé, ça s'est très bien lancé, et le prêtre était très content. Et donc, il y a des réunions de doyennés, et puis il a dit à d'autres prêtres, et donc après, la paroisse nous appelle, on voudrait mettre l'adoration. « Ah bon, qui vous a... bah, c'est le prêtre, un tel, machin. » Donc vous voyez, ça marche comme ça, un peu, tache d'huile, hein. Et en fait, plus on ouvre des chapelles, plus on ouvre des chapelles. C'est un cercle vertueux. Donc il y a ce mouvement, effectivement. Et les papes nous y encouragent beaucoup. Hein. Les papes à repartir du Concile Vatican II. Parce qu'avant le Concile, il y avait l'exposition des sacrements, mais c'est beaucoup, beaucoup plus limité. Hein, il y a peut-être une heure le jeudi, parfois des week-ends de 40 heures, mais perpétuel, il n'y avait pas trop ou continu comme ça. C'était, et puis il y avait évidemment le salut du Saint-Sacrement le dimanche. Hein, mais d'ailleurs, j'ai un petit témoignage d'Aymar à ce propos-là, parce que c'est vrai que dans la mouvance traditionnaliste, il y a moins ça, cette adoration continue, etc. Et j'ai trouvé une explication chez Aymar. Saint-Pierre-Julien Aymar, 19e siècle. L'exposition a été rare à son époque solennelle. Lui, il a été vraiment un précurseur. Hein. Alors il dit, on aurait craint en quelque sorte de compromettre le respect et la majesté de ce sacrement d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. Mais aujourd'hui, dit-il, l'exposition solennelle de Jésus sacramentel est la grâce et le besoin de notre époque. Elle est la grâce souveraine. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte du très saint sacrement avec l'exposition est le besoin de notre temps. Il faut cette proclamation publique de la foi des peuples en la divinité de Jésus et en la vérité de sa présence sacramentelle. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie, autour de Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite. C'est ce que dit Saint-Pierre-Julien Aymar. Faire sortir du tabernacle, pour lui, c'est le faire sortir de sa retraite. Pour qu'il se mette à nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu'il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Bon, nous, on a repris tout ça. Hein. On veut foncer dans cette direction parce qu'on est persuadé qu'il faut qu'on revienne à Jésus. Hein. Après, il nous enverra évidemment en mission, hein, mais il faut revenir à notre Seigneur. Hein. Le commandement numéro un, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Mais c'est parce que tu aimes bien le Seigneur que tu pourras bien aimer ton prochain comme toi-même. Sinon, le service du frère risque d'être une simple philanthropie. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire du bien sur le plan humain, à son voisin. Voyez ? Et donc, nous, on doit apporter Jésus, la grâce, le surnaturel, la charité. Hein, donc, il faut mettre dans l'ordre. Hein, et encore une fois, la contemplation, c'est l'adoration, n'est pas à l'opposé de l'action. Saint Thomas d'Aquin dit que les deux sont dans toutes les vies. Même le moine chartreux, il travaille. Il est actif d'une certaine manière. Il ne se tourne pas les pouces. La conception d'une vie contemplative comme je me tourne les pouces, je fuis les défis de la société, etc. Je me refuse. Non! Le moine, il va prier avec tout le monde sur ses épaules et il offre à Dieu, il sacrifie sa vie, enfin, il donne sa vie à Dieu pour ça. Et donc, saint Thomas d'Aquin dit que l'action doit être la servante de la contemplation. Ça va loin, hein ? Et nous, on est complètement à l'envers. Marthe et Marie. Jésus ne dit pas à Marthe que c'est pas bien qu'elle fasse le service. Il lui reproche d'être complètement pris par ça. Et de ne pas avoir mis la contemplation avant, vous voyez. Mais Jésus ne reprochera jamais qu'on aille faire le bien et qu'on aille servir. Mais il faut mettre dans l'ordre. Et la meilleure part, c'est l'adoration, et l'autre est servante. Et donc, si c'est bien dans l'ordre, si la contemplation est bien à sa place et l'action à sa place, eh bien, l'action aide la contemplation. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est une disposition, Elle nous dispose, elle nous prépare. On prie mieux si on a bien agi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout opposé. Mais il faut mettre dans l'ordre. Et bien souvent, c'est ce que disent tous les saints, hein, c'est à cause du péché. On a du mal à prier, à faire silence et à se tourner vers Dieu. Hein ? Le péché, c'est une sortie vers l'extérieur, vers les choses à faire. Et alors que Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le royaume est au-dedans de vous. Et donc toute la conversion va d'abord être de revenir à l'intérieur, dans le silence de la prière, de l'adoration. Hein, mais donc quand c'est bien en ordre, tout va bien. Mais le drame, c'est que presque tout le temps, l'action va devenir la maîtresse et la contemplation la servante. Et là, c'est la cata et Marie et Marthe râlent. Donc si on râle dans notre vie, qu'on a trop de choses à faire, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Quand c'est dans l'ordre, on est content de faire son action. On est dans la paix, on sert le Seigneur. Mais parce que c'est dans l'ordre. Vous voyez l'idée, hein ? Donc, on n'oppose pas action et contemplation. Les deux sont parfaitement présentes dans chacune des vies. Hein ? Mais attention, parce que la tentation actuelle, c'est l'activisme. On oublie la contemplation. Et on dit, ça ne sert à rien, c'est une fuite, etc. Voilà, j'ai fini mon petit laïus sur la contemplation. Alors, il y a une question au fond, mais après.
Est-ce que en général, ces modalités de prière, comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à ces actions-là qui forcément vont être difficiles ?
Ah ben, en fait, quand on se branche sur le bon Dieu, on reçoit sa force. Hein ? On reçoit son enthousiasme, on reçoit sa grâce. Donc, il nous fait traverser les choses difficiles et entreprendre même des choses difficiles de manière plus facile. Les saints, une mère Teresa, c'est extraordinaire ce qu'elle a entrepris, cette toute petite femme. J'ai rencontré des personnes qui l'ont connue, ils étaient bluffés de sa petitesse, de sa fragilité quand ils la voyaient, et en même temps, elle dégageait une force incroyable. En fait, être chrétien, c'est pas être visé la médiocrité. Souvent, on entend un discours un peu dans cet esprit, j'ai pu y tomber de temps en temps aussi. Je suis nul, je ne fais rien, je reste petit, etc. En fait, parfois, ça, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité va de pair avec la magnanimité, c'est la vision classique des vertus. La magnanimité, la grandeur d'âme, le désir d'entreprendre des grandes choses. Vous voyez ? En fait, on entreprend des grandes choses avec le Seigneur quand on est humble. C'est ce que font les saints. Donc, évidemment que le Seigneur va nous faire passer ces actions difficiles. Mais peut-être qu'avant de nous les faire passer, il va nous apprendre notre pauvreté dans ce temps d'adoration. Et parce que je crois que dans notre vie, il faut qu'un jour, on se retrouve quand même par terre, en face du Seigneur, comme saint Paul, qui a été renversé de son arrogance, de son... Vous voyez, on est tous pécheurs, et il est bon de se faire renverser par le Seigneur, hein, pour le rencontrer vraiment, en tant que Seigneur, en tant que Dieu. Hein, voilà, donc voilà ce que je pourrais répondre. Le Seigneur donne sa force pour... voyez, je peux un témoignage personnel. J'étais angoissé dans toute mon enfance jusqu'à ma rencontre avec le bon Dieu. Je ne pouvais pas parler en public. Bon, voilà, j'ai choisi un métier où on parle quand même beaucoup en face de gens, ce que j'ai en train de faire. C'était l'angoisse. Je suis tombé dans les pommes à la soutenance de mon mémoire dans mes études par stress trop fort parce que je n'arrivais pas à parler en public. Parce que voilà, c'est mon histoire, j'avais une blessure, etc. Et bien, voyez ce qu'est capable de faire le Seigneur. Et il m'a guéri, et il m'a donné la force de pouvoir parler. Et maintenant, je n'ai plus du tout peur. Voilà, j'aurais jamais pensé possible ça, parce que dans toute mon existence jusqu'à ma conversion, j'étais le plus angoissé. J'avais des petites lumières jaunes qui arrivaient, et puis j'étais toujours en train de tomber dans les pommes quand je fallait parler en public. C'est compliqué, hein, parce qu'à l'école, il faut souvent parler en public et aller présenter ses trucs. Donc Dieu donne la grâce. Quand il demande de faire quelque chose, il donne la grâce. Parce qu'il est bon. S'il n'était pas bon, enfin voilà, donc... voilà. Le problème, c'est que parfois, nous, on entreprend des choses, on pense que c'est le bon Dieu qui nous les demande, et c'est pas lui. Et là, c'est notre amour propre, et puis notre vanité, etc. Donc là, on risque de se casser la figure. Mais c'est bon, parce qu'on apprendra un peu d'humilité. Oui.
Je voudrais juste savoir si vous avez eu des retours des paroisses qui ont mis en place l'adoration permanente, et quels sont les fruits concrets sur les paroisses.
Alors le fruit principal, c'est un fruit, une grâce de communion, de charité entre les âmes. Voilà, ça travaille cet aspect des choses, hein, parce que la vertu la plus grande, la plus belle chose, c'est la charité. Hein. On peut se faire brûler vif pour le nom de Jésus sans charité, nous dit saint Paul, et ça ne sert à rien. Ça ne nous ouvre pas les portes du ciel. Non mais ça va très loin, hein, l'enseignement de l'évangile et de la foi chrétienne catholique. Parfois on se trompe. Hein. Faire les choses même pour Dieu, mais sans Dieu, par amour propre, ça ne nous emmène pas au ciel. Hein. Il faut faire les choses par amour pour Dieu, par charité. Alors les paroisses témoignent, les curés de paroisse témoignent. Alors, j'ai une revue que je vous donnerai gratuitement. Si vous pouvez vous abonner après, on prend. Où il y a des témoignages de paroisse, justement. Hein, donc je ne les ai pas tous en tête, mais beaucoup témoignent de cette atmosphère généralisée dans la paroisse qui se sent à l'extérieur quand les gens viennent de l'extérieur. Ils trouvent qu'il y a une atmosphère joyeuse, paisible, de charité. Vous voyez, c'est un perçu comme ça. Voilà. Nous, je peux en témoigner chez nous, hein, on a mis l'adoration du lundi soir 19h au samedi matin 7h en continu, avec toutes les nuits, du lundi au samedi matin. Et donc, voilà, nous, moi je suis souvent dans la basilique à Saint-Maximin pour confesser, enfin voilà, on est présent quand même. Et donc je rencontre des gens qui me posent des questions, et plusieurs fois, j'en ai une dizaine en tête, des personnes qui disent, mais il y a une atmosphère, on se sent bien quand on rentre dans la basilique, on sent, et puis même des paroissiens de passage qui disent, mais votre paroisse, il y a de la joie, on sent qu'il y a, voilà. Donc moi, je sais très bien d'où ça vient, et donc je leur montre la chapelle d'adoration. Donc voilà, alors ça ne vient pas comme ça, évidemment, hein. C'est une conversion, petit à petit, hein. Mais, parce qu'en fait, c'est ça, le vrai fruit de l'adoration et de la prière, c'est plus de charité, hein. Si on sort de l'adoration et qu'on est imbuvable, il y a un problème. Hein. une fois à la paroisse de, bon, je tairai le nom parce que peut-être il y en a qui connaissent, banlieue parisienne, une paroisse avec beaucoup d'adoration, j'étais presque à 24 heures sur 24, et donc je fais une piqûre de rappel, une relance. Tous les deux ans, on peut revenir pour aider la paroisse, hein, pour l'accompagner. Et donc là, il y a un homme qui vient me voir et qui dit, mon père, vous ne pouvez pas parler à ma femme parce qu'elle a pris un créneau de nuit et elle est insupportable depuis qu'elle a pris ce créneau de nuit. Et elle avait des enfants en bas âge. Et effectivement, là, non, non, vous ne prenez pas de créneau de nuit. Le but de l'adoration, ce n'est pas de devenir insupportable. Hein ? C'est d'avoir plus de patience pour son époux, pour ses enfants, plus de... voyez ? C'est ça, le vrai fruit de la prière, de l'adoration, c'est la charité. Et c'est ça le signe. Donc si on sent qu'en sortant de l'adoration, il y a un peu d'amour propre, d'orgueil, etc., mauvais signe. Hein, demandons la grâce à Jésus de rééquilibrer tout ça. Donc c'est vraiment une grâce de communion, de charité en majorité. Après, sur le site Adoperp, pour ceux qui veulent adoration perpétuelle, Adoperp, c'est le site de notre petite communauté en France. Eh bien, vous allez cliquer, il y a énormément de documentation et il y a détaillé tous les fruits ecclésiaux, paroissiaux de l'adoration, personnels et communautaires. Parce qu'il y a les deux. Hein. Nous, on insiste sur les deux. Ce n'est pas juste ma petite dévotion privée. Oui, c'est ma dévotion personnelle, évidemment, hein, individuelle, le cœur à cœur avec Jésus. Mais c'est dans une dimension ecclésiale, hein, de la paroisse qui répond à cet appel.
Si on prie pour les vocations, mais tout type de vocation.
Oui, oui, ça c'est un des grands aspects, prier pour les vocations, quand vous êtes à l'adoration, tout le temps évidemment, hein, mais là j'ai le témoignage d'un prêtre irlandais, un évêque irlandais, parce qu'on a des Irlandais dans notre communauté, on n'est que deux Français sur les sept, tous les autres sont étrangers, mystère. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert une maison aux États-Unis, parce que les Irlandais, quand ils les envoyaient en mission, ils parlaient français à peu près correctement, mais en fait, pas si correctement que ça. Il y avait un gros accent. Vous voyez, il parle avec une patate dans la bouche. J'espère qu'il n'y a pas d'Irlandais ce soir. Et donc, non, mais l'accent était vraiment difficile, quoi. Et donc, les paroisses nous disaient, on ne comprend pas trop ce qu'ils racontent. Donc, pour la mission, c'est un peu compliqué. Donc, on a ouvert aux États-Unis. Et donc, cet évêque irlandais témoigne que dans son séminaire, sur les 10 vocations qui étaient arrivées depuis 2-3 ans, voilà, 9 venaient des paroisses où il y avait le Saint-Sacrement exposé en permanence, où il y avait l'adoration, enfin, au moins longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez l'importance de... Parce que Jésus nous demande de prier pour les vocations. Hein, et tous les problèmes qu'il y a eu, et les difficultés, enfin, les tentations au moment du synode sur l'Amazonie, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui disaient « Mais il faut que les prêtres se marient, etc. Ça réglera le problème des vocations. » Pas du tout. Jésus, il n'est pas dit qu'il fallait que nous réglions nous-mêmes le problème des vocations. Ça, c'est la conséquence d'une vision technique, technologique. C'est moi qui gère mon église, mais ce n'est pas notre église, ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église du pape, c'est l'église de Jésus. Et donc, Jésus nous dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et donc, les vocations s'obtiennent uniquement dans la prière, dans cette humble demande. Et ça, c'est le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, a bien expliqué cette mauvaise compréhension du sacerdoce comme quelque chose de fonctionnel, un job. Et donc, mince, on a des carences dans le job, on va faire on va réformer l'Église pour qu'on puisse avoir... Non, c'est pas du tout la vision chrétienne. Hein. Les vocations, évidemment, c'est ce que disait le curé d'Ars déjà, elles se demandent à genoux. Donc là, vous le verrez peut-être pas tous, mais là, la chapelle qui se lance, peut-être dans 10 ans, 15 ans, il y aura des vocations qui seront complètement liées à cette chapelle d'adoration. Et il y a besoin de vocations, hein, frères et sœurs, on peut prier. Hein. Il y a besoin de prêtres, besoin de prêtres qui aiment Jésus et qui le donnent et qui fassent repartir la foi.
Auriez-vous quelque chose à dire sur Carlo Acutis ?
Alors Carlo, c'est un saint eucharistique, donc ça c'est notre petite revue. Le brasier eucharistique pour mettre le feu dans les âmes. Le dernier numéro, c'est sur Carlo Acutis, puisqu'effectivement, c'est. Alors, c'était. La parole est écrite dans la chapelle, j'ai vu, hein, l'autoroute pour le ciel. Hein, je valide à 100%. L'Eucharistie, c'est la perle des sacrements. Hein. Je vous rappelle que tous les sacrements sont ordonnés au sacrement de l'Eucharistie. Il est à part, l'Eucharistie est à part. Parce que le baptême donne la grâce sanctifiante, mais mais seule l'Eucharistie et la grâce elle-même, Jésus lui-même, vous voyez. Donc on est baptisé pour pouvoir communier. On va se confesser pour pouvoir communier. On se marie pour pouvoir communier en étant marié et avoir des relations charnelles. On a le sacrement des malades et le viatique pour communier. Vous voyez tout. Et on est ordonné prêtre pour l'Eucharistie. Tous les sacrements sont ordonnés. Et la confirmation aussi, Carlo Acutis en parle, je crois, j'ai lu quelque part, qui disait que, ou non, c'est peut-être quelqu'un d'entre vous qui m'a témoigné de ça, que à la confirmation, il y avait une grâce supplémentaire d'amour de l'Eucharistie. Hein, donc, tous les sacrements sont ordonnés à la Sainte Eucharistie. C'est le joyau de la couronne. Hein, donc, l'autoroute pour le ciel, oui, évidemment, il est vraiment eucharistique. C'est un saint eucharistique. On l'aime beaucoup. Hein, il faut que je creuse sa vie. Donc, c'est une très bonne idée, mon père, d'avoir choisi comme patron de l'oratoire. Oui, l'Eucharistie, c'est tout. Hein. On a c'est Jésus, c'est la perle des sacrements et c'est l'autoroute qui nous conduit au ciel. Et lui, alors ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il y est, à raison, l'Eucharistie et la pénitence, le sacrement de réconciliation. Hein, et ça, il faut peut-être qu'on le redécouvre encore plus. Hein. Jésus veut qu'on se confesse souvent pour guérir notre âme et pour bien recevoir l'Eucharistie. Hein, parce que malheureusement, souvent, les personnes n'ont pas conscience que parfois, il faudrait qu'elles aillent d'abord se confesser. Hein. Quand on fait une faute grave, eh bien, il faut se confesser avant de communier. Sinon, on fait un péché grave encore. Hein. On l'a un peu oublié, on l'a un peu perdu. C'est devenu un peu automatique, vous voyez, cette communion. Et ben non, c'est pas automatique. Il faut que mon cœur soit prêt, purifié. Alors, on est toujours pécheur, hein, mais j'ai précisément... Le sacrement de réconciliation purifie notre cœur et prépare notre cœur à la réception fructueuse. Hein, parce que si on reçoit Jésus et qu'on n'est pas en état de grâce, eh bien, on n'a aucun fruit de l'Eucharistie. Hein. On fait même un péché grave, qui s'appelle le sacrilège. Hein, on blesse le cœur de Jésus, hein, on l'offense. Donc c'est très important de redécouvrir cette dimension, ces deux dimensions qui sont intimement liées, hein, le sacrement de pénitence, pour la réconciliation avec Jésus. Hein, Jésus est plein de miséricorde. N'ayons pas peur d'aller recevoir le plus souvent possible ce sacrement d'amour. Et puis, l'adoration, un petit mot aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont en souffrance par rapport à leur situation divorcée, remariée, etc. Il y en a un certain nombre de nos jours. Eh bien, l'adoration eucharistique est un grand moyen de s'approcher de l'Eucharistie, alors qu'on ne peut pas communier parce que notre situation nous l'empêche. Hein, mais de vivre ce cheminement spirituel de sanctification en s'approchant de Jésus dans l'adoration, en lui ouvrant notre cœur, qu'il puisse nous donner sa lumière et nous faire avancer, grandir, etc. Hein, donc l'Eucharistie n'est pas refuser la Sainte Communion pour un temps, hein, mais on peut s'approcher de Jésus dans l'Eucharistie. Et notamment l'adoration est un très beau moyen hein, de grandir. On a beaucoup de paroissiens sur notre paroisse qui sont dans ces situations douloureuses. Hein, et bien petit à petit, il y a une paix qui se fait, une compréhension, et un vrai cheminement spirituel, hein, une vraie croissance. Voilà, ça aussi c'est un des aspects importants pour l'Église. Alors, s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits à la chapelle d'adoration, on a des papiers pour vous. Hein. N'hésitez pas. Et puis, parlez-en autour de vous aussi, hein, à d'autres paroissiens qui ne sont peut-être pas inscrits. Vous voyez, de manière un peu innocente. Tu es inscrit, toi, à la chapelle ? Tu as pris ton heure d'adoration ? Vous voyez ? Et ça peut, on peut peut-être encore en trouver une dizaine ou une quinzaine, hein, comme ça, ou peut-être même plus. Hein, mais n'hésitez pas à vous transformer aussi en invitant. Parfois, on se dit, mais qui je suis pour aller, machin, il va me juger. Non, on y va tout tremblant. L'adoration, tu as vu, tu as pris ton heure. Ça peut toucher des cœurs. Hein. Donc, j'ai aussi donc des exemplaires de cet abonnement, de ce brasier. Il est gratuit aujourd'hui. Et puis, si vous voulez vous abonner, c'est 10 numéros dans l'année et c'est 18 euros en tout. 1,80€. Le numéro, bon, voilà, ça nous aide à vivre, hein, parce qu'on a deux séminaristes, il y a nos photos, vous pourrez voir la photo de la communauté, et on a deux séminaristes qui sont en formation et ça coûte très cher. Voilà.
La paroisse va sans doute s'abonner, donc vous pourrez glaner des témoignages dans l'oratoire, mais attention, pas plus de 2 minutes. Alors, où en sommes-nous? Avant le week-end, nous étions à 85 inscrits. Avec les prédications du Père Jérôme, on a glané une trentaine d'inscriptions. Il faut être vrai, on aura du mal à couvrir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour le moment.
Oui, oui. Je pense que d'après ce qu'on a vu, il y aura sans doute quand même 3 nuits, et c'est déjà très bien, et 5 jours. Vous voyez, donc on est... Voilà, a priori, on va partir là-dessus, je pense, 5 jours, 3 nuits. Mais vous voyez, 3 nuits, ça fait 4 jours complets en continu, hein. Il manquera une nuit pour faire tout complet. Bon, peut-être qu'elle viendra plus tard, hein. Mais voilà, c'est déjà bien, hein.
Il me reste à vous remercier, Père Jérôme.
Je propose de vous bénir, et puis après, comme ça, vous pouvez venir vous servir sur les brasiers eucharistiques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci de vous être inscrits et merci d'assurer votre heure d'adoration.